Audiolib présente 22-11-63 de Stephen King. Lu par François Montagu. Pour Zelda. Hé, Pépette, bienvenue à la fête. Il est pratiquement impossible à la raison d'assimiler le fait qu'un petit homme solitaire ait pu abattre un géant au milieu de ses limousines, de ses légions, de ses foules, de sa sécurité. Si une telle nullité a pu détruire le chef de la nation la plus puissante de la Terre, alors un monde de démesure nous engloutit. Et nous vivons dans un univers absurde. Norman Mailer. Quand il y a de l'amour, les cicatrices de la variole sont aussi jolies que des fossettes. Proverbe japonais. La danse, c'est la vie. « 22-11-63 » J'ai jamais eu la larme facile, comme on dit. Si j'en crois mon ex-épouse, mon gradient d'émotion inexistant est la raison principale pour laquelle elle m'a quitté. Comme si le mec qu'elle avait rencontré à ses réunions des alcooliques anonymes n'y était pour rien. Christie supposait qu'elle pouvait me pardonner, disait-elle, de ne pas avoir versé de larmes à l'enterrement de son père. Je ne le connaissais que depuis 6 ans et ne pouvais comprendre quel homme merveilleux et généreux c'était. Une Mustang décapotable comme cadeau de fin d'études secondaires, par exemple. Mais par la suite, quand je n'ai pas versé de larmes à l'enterrement de mes deux parents, ils sont morts à tout juste 2 ans d'intervalle, mon père d'un cancer de l'estomac, et ma mère d'une crise cardiaque foudroyante en marchant sur une plage de Floride, elle a commencé à comprendre cette histoire de gradient d'émotions inexistant. J'étais incapable de ressentir mes sentiments. En jargon AA, le jargon des alcooliques anonymes. « Je ne t'ai jamais vu pleurer », m'a-t-elle dit de ce ton cassant que prennent les gens quand ils vous assènent l'argument sans réplique qui met un point final à votre relation. Même quand tu m'as dit que si je n'allais pas en cure de désintoxication, tu me quittais. Cette conversation eut lieu environ 6 semaines avant qu'elle ne boucle ses valises, les embarque dans sa voiture et traverse la ville pour s'en aller emménager avec Mel Thompson. Garçon rencontre fille sur le campus des AA. Un autre de leurs dictons. Je n'ai pas versé de larmes en sortant sur le pas de la porte pour lui dire au revoir. Je n'ai pas non plus versé de larmes quand je suis retourné à l'intérieur de la petite maison à la grosse hypothèque. La maison où aucun bébé n'était né, ni ne naîtrait jamais. Je me suis juste allongé sur le lit qui n'appartenait plus qu'à moi seul désormais. J'ai posé mon bras sur mes yeux et j'ai pleuré. Sans larmes. Mais je n'ai pas de blocage émotionnel. Christie avait tort sur ce point. Un jour, quand j'avais 9 ans, ma mère m'attendait sur le seuil à mon retour de l'école pour m'annoncer course, mon petit collet s'était fait écraser par une voiture qui s'était même pas arrêtée. J'ai pas pleuré quand on l'a enterré. Même si mon père m'a dit que personne me prendrait pour une mauviette si je le faisais. Mais j'ai pleuré quand ma mère me l'a dit. D'abord parce que c'était ma première expérience de la mort. Mais surtout, parce que c'était à moi qu'incombait la responsabilité de bien fermer le portail en partant pour qu'il soit en sécurité dans notre jardin. Et j'ai pleuré quand le médecin de ma mère m'a appelé pour m'expliquer ce qui s'était passé ce jour-là sur la plage. « Je suis désolé, mais c'était sans espoir », m'a-t-il dit. Parfois c'est très soudain, et les médecins ont tendance à considérer cela comme une bénédiction. Christine n'était pas là pour voir ça. Elle avait dû rester tard à l'école ce jour-là pour un entretien avec une mère d'élèves au sujet du dernier bulletin scolaire de son fils. Mais j'ai pleuré. Carrément. Je suis allé dans notre petite buanderie, j'ai pris un drap sale dans le panier à linge et j'ai pleuré dedans. Pas longtemps, mais les larmes ont coulé. J'aurais pu lui en parler plus tard, mais je ne voyais pas l'intérêt. D'abord parce qu'elle aurait pensé que j'allais à la pêche à la pitié. C'est pas une formule des AA, mais peut-être que ça devrait. Ensuite parce que je crois pas que la capacité de se répandre en sanglots pratiquement sur commande soit un prérequis pour un mariage réussi. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais vu mon père verser une larme. Au maximum, il pouvait pousser un lourd soupir ou grogner deux ou trois petits rires réticents, mais pas de claque sur les cuisses pour William Epping, ni de bras au ciel hystérique. Il était de l'espèce solide et silencieuse. Et la plupart du temps, ma mère était comme lui. Alors peut-être que cette histoire de ne pas avoir la larme facile est un truc génétique. Mais un blocage émotionnel, une incapacité à ressentir mes sentiments, non. Je ne suis pas comme ça. À part la fois où j'ai pleuré pour maman, je n'ai le souvenir que d'une autre fois où ça m'est arrivé étant adulte. Et c'est en lisant l'histoire du concierge du lycée de Lisbon Falls. J'étais seul en salle des profs, attelé à la correction d'une pile de dissertations que ma classe d'anglais pour adultes avait rédigée. Au bout du couloir, j'entendais les rebonds sourds d'un ballon de basket, les sonneries des temps morts et les cris de la foule pendant que les bêtes de sport combattaient. Lévrier de Lisbon contre Tigre de Jay. Qui peut savoir quand ou pourquoi la vie est en jeu? Le sujet que j'avais donné était « Le jour qui a changé ma vie ». La plupart des réponses étaient sincères mais consternantes. Des histoires à l'eau de rose d'une tante généreuse qui avait accueilli une adolescente enceinte, d'un copain de régiment qui avait démontré le vrai sens du courage, d'une rencontre fortuite avec une célébrité, Alex Trebek, je crois que c'était, le présentateur de Jeopardy, ou peut-être que c'était Karl Malden. Les enseignants parmi vous qui ont arrondi leur fin de mois en acceptant un cours de remise à niveau pour adultes savent combien peut être décourageante la lecture de ce genre de devoir. Et je ne parle pas du processus de notation qui n'entre pas en ligne de compte, du moins pas pour moi. Je mets la moyenne à tout le monde, parce que je n'ai jamais eu un seul élève adulte qui ne se soit pas crevé le cul pour y arriver. Pour peu que vous rendiez une copie avec quelque chose d'écrit dessus, vous étiez assuré d'un coup de pouce de la part de Jake Epping, prof d'anglais au lycée de Lisbon Falls, et pour peu que votre devoir soit organisé en véritables paragraphes, vous décrochiez au moins un B. Le plus dur dans ce travail, c'était que le stylo rouge devenait mon outil pédagogique numéro un, et que je l'usais plus que ma salive. Et le plus décourageant, c'était de savoir que très peu de cet enseignement inculqué à l'encre rouge était destiné à rester. Si vous arrivez à l'âge de 25 ou 30 ans sans savoir orthographier correctement des mots simples, totalement et pas totalement, ni mettre des majuscules à certains autres, maison blanche et pas maison blanche, ni écrire une phrase contenant à la fois un nom et un verbe, alors vous ne saurez probablement jamais. Pourtant, nous jouons vaillamment de la machette dans cette jungle, encerclant le mot mal orthographié dans des phrases comme « Mon mari était paranoïaque » ou biffant le mot « buveron » pour le remplacer par « boiron » dans la phrase « Après ça, nous buverons plutôt du thé ». C'était un travail incroyablement laborieux et sans espoir auquel je me consacrais ce soir-là, tandis qu'une énième partie de basket s'acheminait vers la sonnerie de fin de match. Monde sans fin, amen. Christy était sortie depuis peu de sa cure de désintoxication, et je suppose que si j'avais quelque chose en tête, c'était l'espoir de la trouver sobre en rentrant à la maison. Effectivement, elle l'était. Elle est restée plus fidèle à sa sobriété qu'à son mari. Je me souviens que j'avais un début de migraine, et que je me frottais souvent les tempes comme quand on essaie d'empêcher un petit martèlement de se transformer en grand coup de cymbale. Je me souviens d'avoir pensé « Plus que trois, rien que trois, ah, je pourrais m'en aller. Rentrer à la maison, me préparer une grande tasse de chocolat chaud et me plonger dans le dernier roman de John Irving, libéré du poids de ses pensums sincères mais pitoyables. » Il n'y eut aucun signal d'avertissement. Ni violon, ni tintement de clochette, lorsque je pris le devoir du concierge sur le dessus de la pile. Aucun pressentiment que ma petite vie allait en être changée. Mais ça, on ne le sait jamais à l'avance, pas vrai? La vie prend des virages à 180 degrés. C'était écrit au stylo à billes bas de gamme, et l'encre de mauvaise qualité avait taché les 5 feuillets à de nombreux endroits. L'écriture était un gribouillage, tarabiscoté mais lisible, et il avait dû appuyer sacrément fort parce que les mots étaient carrément gravés dans les pages arrachées à un cahier bon marché. Si j'avais fermé les yeux et promené mes doigts au verso de ces feuillets arrachés, ça aurait été comme de lire un texte en braille. Il y avait une petite arabesque, comme une fioriture au bout de ces G minuscules. Je me souviens de ça avec une particulière netteté. Je me rappelle aussi comment commençait son devoir. Je me le rappelle mot pour mot. C'était pas un jour, c'était un soir. Le soir qui a changé ma vie, c'est le soir où mon père a assassiné ma mère et mes deux frères et m'a blessé gravement. Il a blessé ma sœur aussi. Si gravement qu'elle est tombée dans le coma. Elle est morte au bout de 3 ans, sans se réveiller. Elle s'appelait Hélène et je l'aimais beaucoup. Elle aimait cueillir des fleurs et les mettre dans des vases. À la moitié de la première page, mes yeux ont commencé à piquer et j'ai reposé mon fidèle stylo rouge. C'est quand je suis arrivé au passage où il avait rampé sous le lit avec le sang qui lui ruisselait dans les yeux. Il me coulait aussi dans la gorge. Et ça avait un goût horrible. Que j'ai commencé à pleurer. Christie aurait été fière de moi. J'ai lu le devoir jusqu'à la fin sans porter aucune correction. Et en essuyant régulièrement mes yeux pour que les larmes ne tombent pas sur les pages qui lui avaient de toute évidence coûté un si grand effort. L'avais-je trouvé plus lent que les autres? Peut-être à peine un cran au-dessus de ceux qu'on appelait autrefois les attardés éducables? Eh bien, Dieu m'en soit témoin. Il avait une bonne raison de l'être, n'est-ce pas? Une raison qui expliquait aussi sa boiterie. C'était déjà un miracle qu'il soit en vie. Mais il l'était. Et c'était un homme vraiment gentil, qui avait toujours le sourire aux lèvres et n'élevait jamais la voix avec les gamins. Un homme bon qui avait vécu l'enfer et travaillait maintenant, avec humilité et espoir, comme la plupart d'entre eux, pour obtenir un diplôme d'études secondaires. Quand bien même il resterait concierge toute sa vie. Un gars en salopette marron ou kaki, poussant un balai ou grattant les chewing-gums collés par terre avec le couteau à mastic qu'il gardait toujours dans la poche arrière de son pantalon. Peut-être qu'un jour, il aurait pu être quelqu'un de différent. Mais un soir, sa vie avait pris un virage à 180 degrés. Et maintenant, c'était juste un gars en Carhartt que les élèves surnommaient Harry Harrocrapi Crapaud. À cause de sa façon de marcher. Donc j'ai pleuré. De vraies larmes, de celles qui jaillissent d'une source profonde. Au bout du couloir, j'entendais l'orchestre de Lisbonne attaquer leur chant de victoire. J'en ai conclu que l'équipe du lycée avait gagné, et tant mieux pour eux. Plus tard, Harry et deux de ses collègues iraient rabattre les gradins pour balayer les détritus que les jeunes avaient bazardés dessous. J'ai tracé un grand A rouge en haut de la première page. Je l'ai regardé un petit moment, puis j'ai ajouté un grand plus rouge à côté. Parce que son devoir était bon. Et parce que sa souffrance avait suscité une émotion en moi, son lecteur. Et n'est-ce pas ce que l'on demande à un écrit de niveau A+, qu'il vous remue? Si seulement l'ex-Christy Epping avait eu raison, j'aurais préféré faire un blocage émotionnel, en fin de compte. Parce que tout ce qui a suivi, toutes les choses terribles qui ont suivi, a découlé de ses larmes.